Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
L'actualité en ce jeudi 19 mars, elle ne tourne autour que d'un seul sujet, le coronavirus. La Tasmanie vient de déclarer l'état d'urgence et impose désormais une quarantaine de 14 jours à tous ceux qui n'ont pas une raison impérative de s'y rendre. La compagnie aérienne Qantas annonce pour sa part l'arrêt de toutes ses liaisons internationales, mais aussi la mise au chômage technique des deux tiers de son personnel, soit 20 000 employés. On ira également faire un tour en France pour voir comment l'Hexagone se porte après deux jours de confinement total. L'Australie reste pour l'instant relativement épargnée par la pandémie de Covid-19, mais le nombre de cas y a augmenté en flèche ces derniers jours. On compte désormais plus de 620 personnes infectées contre un peu moins de 500 encore hier. En conséquence, les États australiens serrent encore un peu plus la vis. L'État du Victoria, où le nombre de cas a triplé au cours de la nuit, a déclaré l'état d'urgence. C'est aussi le cas de la Tasmanie, qui a également annoncé que tous les arrivants qui ne se rendent pas sur l'île pour des raisons essentielles devront, à partir de vendredi, s'auto-confiner pendant 14 jours, et ceux qu'ils soient étrangers ou australiens. Ces mesures de protection des frontières sont les plus strictes adoptées au sein du pays, mais elles sont indispensables pour protéger la santé et le bien-être des Tasmaniens, d'après leur Premier ministre Peter Gutwein.
Importantly, these new measures will carry penalties, and I want to make it very clear that we expect people to abide by the law. There can be no excuse for not self-quarantining, for not abiding by the rules.
Et de moins en moins d'avions dans le ciel australien. Après Virgin Australia, qui l'avait annoncé plus tôt cette semaine, c'est désormais la compagnie nationale Qantas, mais aussi Jetstar, qui annonce la suspension de tous leurs vols internationaux à partir de la fin du mois de mars, et ce, jusqu'à au moins la fin mai. Une décision qui signifie aussi la mise au chômage technique de 20 000 employés de ces deux compagnies aériennes. Certains d'entre eux, en particulier les bagagistes, pourraient être redéployés dans d'autres entreprises, comme par exemple dans les supermarchés Woolworths, qui ont en ce moment toutes les peines du monde à réassortir leurs rayons, qui sont littéralement dévalisés par des consommateurs craignant l'annonce d'un confinement total.
We've taken a number of steps, including recommending that Australians do not travel overseas, that those who are overseas and wish to come home do so now. And of course, on arrival, Australians, permanent residents and visitors to our country are asked to self-isolate for 2 weeks. That is a very effective way of managing the challenges that the coronavirus presents. And in that context, the steps that we have taken are, we think, the appropriate ones.
Et la personne qu'on vient d'entendre, c'est la ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, qui a expliqué sur le Seven Network qu'elle ne jugeait pour l'instant pas nécessaire une fermeture totale des frontières comme cela est pratiqué dans d'autres pays, notamment en Europe. En gros, elle explique que cette fermeture totale des frontières n'est pas nécessaire car le gouvernement a déjà appelé tous les Australiens qui se trouvent actuellement à l'étranger à rentrer au plus vite ici en Australie, et que par ailleurs tous les autres qui arrivent justement de l'étranger se voient imposer une quarantaine, un auto-confinement de 14 jours. On prend maintenant la direction de la France, dont la population a connu hier son deuxième jour de confinement total. Certains ont encore du mal à respecter ces règles, puisque la police a délivré au cours de la journée de mercredi plus de 4000 PV à travers le pays. La crise y est pourtant très aiguë. Le Covid-19 a déjà fait 264 victimes. 3600 personnes sont actuellement hospitalisées, parmi lesquelles 900 en soins intensifs. Pour ceux qui sont en bonne santé, ils restent cloîtrés chez eux. Certains découvrent le télétravail, d'autres doivent également s'improviser enseignants. C'est par exemple le cas de Sophie Tourlantin. Elle est journaliste à Radio France Internationale, mais également mère de 4 enfants. Je vous propose d'écouter son témoignage ainsi que celui de ses enfants.
Avec 4 enfants à la maison, je vous avoue que ce n'est pas facile de s'improviser professeur de classe unique.
Non, C'est moi.
Astor, 5 ans, joue au jeu de loi des lettres.
Quand on tombe sur une lettre, il faut la dire et aussi dire un mot. Et si on ne sait pas le mot, on recule d'une case.
À ce jeu, c'est Apolline, en CM1, qui gagne forcément. Après le français lundi et les mathématiques mardi, elle s'attelle à une nouvelle activité.
Je fais faire le journal de confinement. En fait, j'ai envie que mettre des photos de nous, de la famille, pendant qu'on était dans la semaine confinement.
La probabilité d'obtenir un macaron au café est donc égale à 3 sur 12.
Chez les ados, Stella, 14 ans, rattrape ses cours de maths sur Internet.
Ma professeure de maths a fait une vidéo dans laquelle elle expliquait les résultats de l'exercice. Ça passe par Paris Classe Numérique, c'est un site internet où ils nous donnent nos devoirs à faire et nos exercices.
Quant à l'aînée de 17 ans, elle travaille allongée sur son lit.
Je regarde des trucs sur YouTube, j'ai fini toutes mes séries sur Netflix et voilà. Non mais il va falloir que je taffe là. Le bac, j'aimerais bien qu'il soit annulé mais pas reporté.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, se donne jusqu'à la fin des vacances de printemps pour décider du maintien ou du report des examens.
La France est donc sous cloche depuis 2 jours, mais pour ces milliers de ressortissants à l'étranger, c'est un peu la panique. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a voulu les rassurer. Il promet, dans une déclaration vidéo, que tous les moyens du Quai d'Orsay sont déployés pour les faire rentrer.
Les Français qui sont en vacances ou en déplacement à l'étranger sont évidemment en situation de pouvoir rentrer, mais évidemment cela pose énormément de difficultés puisqu'il y avait beaucoup de Français en déplacement. Ils marquent de l'impatience, je les comprends, ils ont parfois de l'angoisse, je les comprends, mais qu'ils sachent que toutes les situations nous sont connues et on essaie dans toutes les situations de trouver les moyens de permettre leur retour le mieux possible, le plus rapidement possible, mais je sais qu'il faut de la patience. Nous suivons tous les cas. Et dans toutes les situations, en relation avec les autorités concernées, en relation aussi avec les compagnies aériennes, singulièrement Air France, qui, je dois dire, fait un gros effort dans cette période, nous essayons de trouver des solutions pour qu'ils puissent revenir chez eux.
Et sur ce sujet, nous rappelons les directives qui ont été données par l'ambassade et le consulat pour les Français actuellement en Australie. Ceux dont le visa expire au cours des 3 à 4 prochains mois sont appelés à rentrer en France le plus vite possible. Pour les autres qui ont un visa d'une durée plus longue ou bien qui sont résidents permanents, on leur conseille plutôt de rester ici en Australie à condition toutefois de disposer d'une bonne assurance maladie mais aussi de ressources financières conséquentes, en particulier pour les jeunes en visa vacances-travail car au cours des prochaines semaines, il va être extrêmement difficile de trouver du travail. Allez, on fait maintenant un détour par le continent africain, jusqu'à présent épargné également, comme l'Australie, par le Covid-19. Mais ça n'est malheureusement désormais plus le cas, puisque une première victime vient d'apparaître en Afrique subsaharienne, plus précisément au Burkina Faso. L'Organisation mondiale de la santé appelle désormais les chefs d'État du continent à se réveiller et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une propagation de la pandémie qui, sur le continent le plus pauvre du monde, aurait des conséquences catastrophiques. Je vous propose d'écouter Michel Yao, en charge du département Afrique à l'OMS.
De façon générale, le continent est encore en situation d'endiguement, mais cela évolue très vite. En l'espace de 2 semaines, nous avons déjà 4 pays dans l'Afrique subsaharienne qui commencent déjà à notifier des transmissions locales, donc intracommunautaires. Donc la fenêtre d'opportunité se rétrécit davantage, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à confiner, mais aussi se préparer au pire, en essayant d'identifier déjà des capacités en termes de prise en charge, notamment la formation des personnels médicaux, l'établissement de structures temporaires pour augmenter les capacités pour s'attendre au pire, et puis aussi avoir la communauté à bord avec des messages d'éducation qui puissent leur permettre de jouer des rôles et de, en fait, en apprenant de ce qui se passe ailleurs, pouvoir ralentir la transmission.
Et puis, les annulations d'événements sportifs et culturels ne cessent de se multiplier. Le dernier en date, c'est le concours de l'Eurovision qui devait cette année se dérouler aux Pays-Bas. Il n'aura finalement pas lieu. Et puis, en Australie, le festival du film français qui venait à peine de débuter a lui aussi été reporté. L'autre événement sportif majeur qui doit pour l'instant toujours avoir lieu, ce sont les Jeux Olympiques. Demain, la flamme olympique doit entamer son long périple depuis Athènes jusqu'à Tokyo. Mais au vu de la situation actuelle, on se demande un peu comment ça va être possible. La même question se pose vis-à-vis du Comité international olympique qui vient donc d'annoncer pour l'instant le maintien des Jeux. Une décision qui fait débat, même au sein de la communauté sportive internationale. On va écouter les explications de Christophe Jousset de Radio France Internationale.
Le discours du Comité international olympique a fait réagir le monde sportif mardi. Le CIO estimait qu'il n'était pas nécessaire de prendre des décisions radicales. Une position insensible et irresponsable, selon la hockeyeuse canadienne Aisley Wickenheiser, quadruple médaillée d'or au JO, elle-même membre du CIO. Aucune considération du risque, renchérit la championne olympique de saut à la perche, la grecque Katerina Stefanidi. Je suis atterré par tant d'inconséquences, conclut le président de la Fédération française de natation, Gilles Sézionnal. Dans de nombreux pays, les athlètes sont en difficulté, empêchés de s'entraîner normalement, inquiets de savoir comment ils vont décrocher leur qualification pour Tokyo. Car oui, les compétitions qui servent à se qualifier sont suspendues. À ce jour, 57% seulement des places réservées aux sportifs ont été attribuées. Ce mercredi, le président du CIO, Thomas Barr, a encore cherché à rassurer. Il nous reste 4 mois, dit-il. Deux grands champions français sont d'accord avec lui. Le biathlète Martin Fourcade, laissons-nous le temps de voir comment la situation évolue, et le perchiste Renaud Lavillenie qui appelle à ne pas céder aux spéculations néfastes.
Et on finit par un point rapide sur la météo du jour en Australie. Il fait 26 degrés à Perth, 32 à Adelaide, 30 degrés à Melbourne, 20 degrés à Hobart, 29 degrés à Sydney, 28 degrés à Brisbane et 35 degrés à Darwin. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.